Au début du récit que je vais vous lire dans la Bible, au premier livre des Rois, au chapitre 19, le prophète Élie est complètement désespéré. En effet, croyant bien faire, il a en fait fait une immense bêtise. Il cherchait à rassembler tout le monde autour de Dieu, et il l'a fait en montrant la puissance de Dieu pour inspirer de la crainte aux gens, en se disant que ça allait bien marcher, que les gens allaient revenir. Il a même eu l'idée d'écraser un bon nombre d'ennemis de Dieu. Alors il se dit, peut-être que j'ai gagné. Eh bien non. Élie sent au contraire dans son cœur qu'il a tout gâché. Pourtant, il croyait bien faire. Il croyait servir Dieu. Mais quel Dieu est-ce qu'il croyait servir ? La théologie, ce n'est pas juste une chose que l'on fait pour se distraire comme on fait des mots croisés, pour s'occuper l'esprit. C'est vrai que c'est amusant de faire de la théologie. Mais l'idée que l'on a de Dieu, ça change notre façon de vivre et d'espérer. Notre théologie influe sur ce que l'on pense être juste. Elle transforme peu à peu nos projets, nos actions, nos manières d'agir en ce monde, qui peuvent alors devenir le meilleur ou le pire. Par exemple, si l'on croit que Dieu est un juge puissant qui écrase ses ennemis, ben nous penserons qu'il est juste, normal, d'écraser ceux qui nous entourent avec puissance dès qu'il nous semble qu'ils ont fait un pas de travers ou qu'ils sont un peu moyens. Et si nous croyons par contre que Dieu est une personne pleine de tendresse, de patience, une personne qui cherche à soigner, à nourrir, à accompagner justement ceux qui ne se portent pas bien, qui sont un peu justes, eh bien alors nous aurons plutôt tendance à nous-mêmes faire du bien à ceux qui nous entourent. Alors Élie a certainement la foi, on va le voir dans cette histoire. Il a une relation personnelle avec Dieu, il veut sincèrement l'aider dans ses projets. Élie a donc vraiment, vraiment la foi, mais il a un problème de théologie. C'est par la crainte et la violence qu'il cherche à convertir les gens. Et il voit que ça n'engendre qu'encore plus de violence et que ça ne rend pas tellement les gens meilleurs, finalement. Croyant bien faire, Élie a fait un mal terrible. Et dans ce texte, nous voyons qu'il s'en rend compte. Il est désespéré, éternel, c'en est trop. Maintenant, éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que les autres. Et c'est vrai. Mais Dieu, il va le découvrir, n'abandonne pas Élie. Dieu va l'aider à reprendre des forces, on va le voir. Et effectivement, il va comprendre Dieu autrement. Un Dieu dont la force est dans la tendresse qu'il a pour ses enfants, comme la tendresse d'une mère pour son bébé. Alors voici ce récit au chapitre 19 du premier livre des Rois. À partir du verset 4, je prends ce récit. Élie, donc, voyant la situation, alla dans le désert, à une journée de marche. Et là, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « Ô Éternel, c'en est trop maintenant. Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Et puis Élie se coucha et il s'endormit sous son genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange ». Alors il regarda. Il y avait à côté de lui un gâteau et des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea, il but et puis il se rendormit. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha encore et lui dit « Lève-toi et mange, car le chemin serait trop long pour toi ». Alors Élie se leva, il mangea, il but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Et là-bas, il entra dans une grotte et il y passa la nuit. Or, voici que la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé plein d'énergie pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance. » Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, et je suis resté, moi seul, et maintenant ils cherchent à me prendre la vie. » L'Éternel dit, « Sors, et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa. Un grand vent violent déchirait les montagnes comme une feuille de papier et brisait les rochers devant l'Éternel. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre terrible. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. Et l'Éternel n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et il sortit. Et il se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui dit, « Que fais-tu ici, Élie ?» Éternel, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur le sentier de toute notre vie. Pour commencer à méditer dans nos cœurs sur ce texte, je vous propose de chanter ensemble, dans le petit recueil « Louanges et prières », le cantique 308, « Confie à Dieu ta route, Dieu sait ce qu'il te faut ». Je vous propose de chanter les quatre premières strophes de ce cantique 308.
Thank you.
Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous sachions où aller quand nos chemins se perdent, que faire quand notre avenir est incertain, que pouvoir quand nous sommes au bout de nos forces. Dieu de notre espérance et de notre salut, nous te cherchons dans la méditation de ces témoignages anciens qui sont dans la Bible. Nous t'espérons, ô toi, source de la nouveauté de vie. Alors Élie est vraiment déçu, car il croyait bien faire. Il croyait bien faire pour son peuple et pour Dieu, et il se rend compte qu'il a tout gâché, tout raté. Alors il se retire dans un coin tout seul et se couche sous un buisson. En fait, nous dit le texte, il se couche sous un genêt. Alors le genêt, c'est une plante qui est bien connue. Il suffit de couper une branche de genêt pour faire un bon balai. Dans tous les pays du monde, on se sert d'une branche de genêt comme balai à poussière. Et si le texte nous précise ça, eh bien ce n'est pas pour rien, ce n'est jamais pour rien finalement qu'il y a un détail dans la Bible. Élie est dans le désert, il est désespéré, il est couché à terre et il est couché sous un genêt. Et donc il pense qu'il n'est plus qu'un petit tas de poussière, qu'un petit tas d'ordures, qu'il n'est plus vraiment vivant ou qu'il ne mérite plus qu'à être balayé, jeté à la poubelle, qu'il ne mérite plus de vivre car il est coupable et il a tout raté. Alors bien sûr, il exagère et c'est souvent le cas quand nous sommes désespérés, déprimés, on voit tout en noir, on se voit soi-même, on voit sa propre vie, on voit les autres, l'avenir, tout négativement. Eh bien Dieu va lui montrer que vraiment il le respecte et qu'il l'aime de toute façon, et qu'un avenir est possible. Et puis quand même, Élie a quelque chose de bien. D'abord, il comprend qu'il a fait une faute. Tant de personnes ne ressentent même pas de honte quand ils ont fait le mal. Moi, c'est ça qui m'a étonné quand j'étais visiteur aumônier des prisons. Beaucoup ne se rendent même pas compte du tout. Voilà. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont blessé quelqu'un, mais souvent, nous sommes comme ça aussi, finalement. On ne se rend même pas compte quand on a fait du mal, aucun remords, aucun regret, voilà, c'est comme ça. Élie, au moins se rend compte qu'il a mal agi, il ne comprend pas encore vraiment la source de ce qui ne va pas finalement. Il ne sait pas encore qu'à la base c'est un problème de théologie, c'est un problème de philosophie qui a tordu sa vie. Mais au moins il se remet en cause, au moins il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et sans cette lucidité finalement, c'est très difficile de pouvoir avancer. Et peut-être que la prière, c'est d'abord cela, d'arriver à avoir une certaine lucidité devant Dieu. Car aussi, Élie a aussi cette qualité-là, c'est que c'est devant Dieu, finalement, qu'il présente sa honte et son regret. Donc, cette deuxième qualité, c'est la foi, finalement. Il se trompe sur Dieu, mais au moins, il le respecte. Et quand ça ne va pas, c'est vers Dieu qu'il se tourne. Ce n'est pas évident, en fait. Pourtant, il a une fausse idée de Dieu et il, Ils pensent qu'aux yeux de Dieu, il devrait mourir finalement, qu'il ne mérite que la mort. Eh bien, il va découvrir qu'il n'en est rien. D'abord, un ange s'approche et lui donne de la nourriture et lui donne de l'eau à boire. Un ange dans la Bible, c'est n'importe quel messager de Dieu. Alors, ça peut être la parole d'une personne qui nous dit un mot. Ça peut être un petit événement, je ne sais pas, une pièce de théâtre, un livre, un événement, un petit détail de la vie qui tout d'un coup nous touche et nous fait comprendre quelque chose. Ça peut être aussi la présence de Dieu qui nous dit quelque chose directement au plus profond de nous-mêmes, comme ça, à un moment, soit dans la prière, soit même comme ça, à l'improviste. En tout cas, qu'importe, d'une façon ou d'une autre, Dieu se rend présent et il propose quelque chose à Élie. « Lève-toi et mange. » Alors « lève-toi », cette parole a vraiment du sens à mon avis. Ça veut dire « tu n'es pas qu'un tas de poussière qui est au pied d'un balai qui va te pousser à la poubelle. Même coupable, même un peu nul par certains côtés, oui, tu es digne. Tu es digne d'être debout, tu as ta place sur terre et tu es là, finalement, tu es sur terre comme un vivant qui est capable de marcher, d'avancer, de progresser, comme un être humain qui peut changer, qui peut évoluer. Alors cette parole de Dieu lui dit, « Tous tes défauts et tes crimes ne me donnent pas du tout l'envie de t'éliminer, de te pousser à la poubelle. Mais au contraire, ça me donne envie de te nourrir pour que tu prennes des forces, que tu puisses avancer, que tu puisses changer finalement un peu. » Ça me donne envie de te donner de l'eau aussi pour que ta fièvre retombe. Alors on pourrait penser que cette présence de Dieu par un ange, la nourriture qu'il lui donne, l'eau qu'il lui donne, eh bien ça va transformer Élie en un coup de baguette magique. Eh bien non. L'homme n'est pas une marionnette dans les mains de Dieu. Et tout prend du temps, bien sûr. Toute création, tout déplacement, toute conversion, toute évolution prend du temps. Et Dieu est d'une patience infinie pour chacun. Bien heureusement. Élie retombe dans la poussière aussitôt après avoir mangé. Il retombe là encore dans l'inconscience, poussière parmi la poussière. Dieu doit repasser une deuxième fois, lui donner à manger encore pour qu'il ait la force d'évoluer, de marcher 40 jours et 40 nuits, nous dit le texte. Alors James Woody nous le rappelait, une de ses dernières prédications, le chiffre de 40 dans la Bible. Ça évoque un temps de gestation, parce qu'il paraît que les femmes sont enceintes 40 semaines. Je ne sais pas très bien comment on compte ça, mais voilà, le chiffre de 40 dans la Bible, ça évoque le temps où l'on est enceinte. Et donc, cela veut dire que Élie est enceinte d'un nouvel Élie, que ça va prendre un peu de temps, mais que ça va venir. Il y aura une délivrance. Et effectivement, il est présenté ensuite comme dans une caverne, dans le ventre de la terre. Lui, qui se considère comme poussière, il est comme dans le ventre de la terre. Dieu l'aidera à en sortir pour vivre, pour avancer, pour vivre non seulement à nouveau dans un certain sens, mais vivre enfin, enfin bien. Alors la première nourriture que Dieu avait donné à Élie pour le ressusciter, que Dieu avait donné même à deux reprises pour le faire sortir de sa dépression et pouvoir le mettre en route, pour que son sentiment d'avoir tout raté et d'être nul, eh bien, ne l'accable plus autant. Eh bien, cette nourriture, c'est une nourriture importante. Il est bien difficile d'avoir la force par soi-même de trouver cette nourriture qui permet de se remettre debout et de se remettre en route quand on est désespéré sur son propre cas. Oui, nous avons souvent besoin d'une personne extérieure, une parole d'une personne qualifiée qui nous dise « tu es digne d'être debout et d'avancer ». Bien des personnes en ce monde, malheureusement, n'ont plus personne, n'ont personne pour leur dire cette parole qui les remette sur pied. Et quelle personne plus qualifiée que Dieu lui-même, finalement, pour nous dire notre dignité? C'est pourquoi l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ est fondamentale, particulièrement en ce monde où l'homme souvent désespère, où l'homme souvent se sent poussière, balayure, rien du tout. Mais Élie, oui, grâce à Dieu, grâce à un ange que nous sommes parfois, a découvert déjà que même coupable, même avec sa mauvaise théologie, même avec ses erreurs passées et puis ses erreurs futures aussi sans doute, il est respecté et aimé par Dieu. Qu'il peut aller à la rencontre de Dieu sans aucune crainte, qu'il peut le prier, qu'il peut le chercher, qu'il peut même l'espérer comme le secours de sa vie, comme une nouvelle naissance possible pour lui. Alors Élie, il a visiblement pris conscience de sa valeur dans ce texte, peut-être même un peu trop, car il se dit « Ah, voilà, je suis moi tout seul à être bon parmi les autres », donc il a un peu trop peut-être regonflé. Mais il a encore cette crainte de Dieu, crainte de la puissance d'un Dieu terrible. Il craint sa puissance qui, par le feu, le tremblement de terre, ou même par un souffle de vent, peut fendre une montagne en deux comme une feuille de papier, nous dit la Bible. Alors Élie ne sait pas encore que ces montagnes que Dieu nous aide à fendre en deux comme une feuille de papier, ben c'est par l'amour qu'il tranche ces montagnes. Et c'est pour l'amour. Et que ces montagnes qu'il faut trancher, ce ne sont pas des personnes, ce ne sont pas des peuples, mais ce sont de fausses élévations à l'intérieur de nous-mêmes. C'est l'orgueil qui nous fait croire, comme Élie, que nous sommes le seul à avoir raison contre tous. C'est peut-être des certitudes que nous avons toujours eues, que nous avons apprises, qui nous semblent des évidences, et que là encore, il faut fendre en deux pour se faire un passage et sortir à la vie, à travers ces montagnes. Voilà. Dieu va alors tenter de guérir Élie dans sa conception de Dieu et sa conception de la vie juste aussi, de l'acte juste en ce monde. Il va falloir que Dieu fendille sa théologie, qu'il fendille ses certitudes pour faire naître l'Élie de demain. Élie identifiait Dieu et sa puissance. Alors c'est vrai que Dieu est puissant, le monde que nous avons sous les yeux, sa formidable évolution et mille signes dans nos vies montrent l'incroyable puissance de Dieu, oui. Mais Dieu n'est pas d'abord une puissance, il est d'abord un amour. Et ça change tout, la puissance n'est qu'un moyen. Dieu part de la conception qu'a Élie de lui finalement. Dieu part de cette puissance, oui, qu'il développe de temps en temps à sa façon. Il lui montre trois signes classiques dans la Bible de la puissance de création de Dieu. Il montre qu'il n'est pas dans ses prodiges, que ce ne sont pour lui que des moyens dont il ne se sert pas n'importe comment. Et Dieu se révèle ensuite dans un murmure doux et léger. Et il est là, oui, dans ce murmure doux et léger. Et donc la plus formidable des puissances de Dieu ne pouvait pas ressusciter Élie, ne pouvait pas le faire venir vraiment à la vie, le faire sortir de son trou. Mais la douceur de l'Éternel va le mener à la vie. Le nom même d'Élie, Élia en hébreu, est une confession de foi en ce Dieu dont la force est en fait la tendresse. En effet, Élie en hébreu se décompose ainsi. Elle, c'est bien connu, d'ailleurs comme en arabe. Elle, c'est le Dieu fort. C'est le Dieu qui crée un monde meilleur par sa puissance. Et Yah, c'est l'Éternel, c'est le côté tendre et aimant de Dieu. C'est le côté source de vie, de mouvement et d'être. C'est le Dieu qui pardonne, le Dieu de la consolation, le Dieu de la patience. Le Dieu qui va jusqu'à même aimer ses ennemis, bénir ceux qui le persécutent, nous dit Jésus. Et littéralement donc, Élia, ça veut dire « mon Dieu, c'est l'Éternel, c'est cette puissance de tendresse et de pardon ». Il y a dans cette confession de foi tout le génie du monothéisme de la Bible. Il existe un unique Dieu, et il est à la fois un créateur puissant et une maman qui berce son bébé avec tendresse. Et même la puissance de création de Dieu est précisément dans sa tendresse, dans cette tendresse qui donne la vie comme une matrice. Car là encore, c'est le même mot en hébreu qui dit « cette tendresse de Dieu est l'utérus ». Donc, cette confession de foi fondamentale du peuple d'Israël, « l'Éternel est Dieu, l'Éternel est un, Tu écouteras l'Éternel ton Dieu. Oui, voilà une bonne piste, celle de ce Dieu qui est tendresse, celle dont la puissance de Dieu n'est que tendresse. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, nous dit le poète Rabelais, je crois. Eh bien, l'histoire d'Élie nous dit que puissance sans amour n'est que ruine pour l'homme et pour son entourage. Elle nous dit que Dieu est amour et que cet amour transcende la force, surmonte le mal par le bien. Cela semble une utopie, mais en fait, nous le savons, il y a là la vraie puissance de vie, dans la tendresse. Dieu n'est pas dans le tremblement de terre, il est dans un patient appel qui fait frémir la nature, qui la fait évoluer. Dieu n'est pas dans les ouragans, sauf dans celui que le Saint-Esprit peut créer en nous, en nous donnant un cœur de chair, un cœur qui nous permet de nous aimer un peu plus nous-mêmes en vérité, qui nous permet d'aimer un peu plus cet autre qu'est Dieu, le Dieu de la vie, qui nous permet aussi de découvrir que nous avons des frères et sœurs autour de nous, frères et sœurs en humanité, et qu'ils peuvent être aussi des amis. Dieu n'est pas dans la foudre, mais il est dans ce feu qui éclaire et qui purifie l'homme de l'intérieur, dans la mesure où nous voulons bien compter sur Dieu pour nous purifier. Donc oui, la nature de l'Éternel, notre Dieu, c'est l'amour, c'est le calme, c'est la patience, c'est le murmure doux, léger et subtil. Ce murmure presque inaudible, nous dit le texte. Inaudible, littéralement comme le bruit d'une poussière qui se fend en deux. Alors bien sûr, c'est un bruit infime, mais Élie entend mieux ce bruit-là d'une petite poussière qui se fend en deux, et c'est ce minuscule petit bruit qui le ressuscite, qui le fait naître à une autre façon de vivre. Il saute sur ses pieds et il sort de sa grotte. Il s'enveloppe le visage car il sait, il sent qu'il est là vraiment devant Dieu et que sa gloire est infiniment plus grande par sa tendresse et son amour que par sa puissance capable de transformer l'univers. Élie sort et se tient à l'entrée de la grotte. Dieu lui dit alors, « Que fais-tu, Élie ?» Excellente question, bien sûr. Question qui continue à le ressusciter car elle le fait réfléchir sur sa vie, pas sur la vie en général pour philosopher, mais sur sa vie à lui en particulier. Peut-être à la lumière d'une nouvelle philosophie, c'est vrai, à la lumière d'une nouvelle théologie. Ça lui permet de s'interroger sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il est et ce qu'il compte faire. Dieu aurait très bien pu lui dire ce qu'il fait là et ce qu'il devrait faire. Et donc, bien sûr, cette question que pose Dieu à Élie, c'est plutôt un questionnement qui nous est proposé, un questionnement fécond. Eh bien, cette question, on peut se la poser en vérité quand on se sait aimer sans condition. Alors que quand on est dans la peur de Dieu, dans la culpabilité, en se disant « mais comment est-ce que je vais avoir le salut, la vie éternelle ?» Eh bien, on pense encore trop à soi-même quand on est ainsi dans la peur, dans la crainte de Dieu. On calcule ce que l'on peut mériter si l'on fait ceci, si l'on n'a pas fait cela, si l'on faisait cela dans le futur, alors que dans l'amour, tout est donné par grâce. Et donc, alors, on peut vraiment regarder la vérité en face, son passé, son présent et son avenir. Élie sait que Dieu est fondamentalement dans le murmure léger et subtil, que sa force n'existe que dans son amour, que sa justice est dans la tendresse et le pardon, dans la discrétion et la patience. Alors, avec lui, Élie peut se poser cette question essentielle. Il peut remettre en cause sa théologie sans crainte d'être foudroyé. Il peut remettre en cause sa conception de la vie sans se renier, mais au contraire, en se retrouvant soi-même. Il peut reconnaître ce qu'il vaut et qu'il y a d'autres aussi qui valent quelque chose autour de lui. Lui qui se prenait d'abord pour un brin de poussière, bonne à être balayée, il apprend que Dieu lui-même se fait brin de poussière pour être proche de nous. Et que ce brin de poussière, en se donnant, fait un bruit qui peut nous ressusciter, qui peut nous faire sortir de notre coquille, qui nous rend capables d'être un peu, pour le monde, pour les autres et pour nous, une bénédiction et non un balai à poussière. Amen.